Donc sur ce culte d'intégration, comme on l'appelle, nous aimons rappeler notre projet d'Église, la façon dont nous voulons mettre en œuvre la mission que Dieu donne à son Église, la façon dont nous la comprenons et dont nous nous organisons. Connaissez-vous notre projet d'Église ? Oui. Et alors? Des disciples qui font des disciples. Oui, exactement. Merci Pierre. Des disciples qui font des disciples. Faire des disciples. Vaste programme. Faire des disciples, mais surtout être un disciple. On ne peut faire des disciples que si on est un disciple. Et du coup, ça pose la question. Qu'est-ce qu'un disciple ? On commence une session de préparation au baptême. Et les différentes personnes que j'ai pu rencontrer avant cette session, pour l'entretien qu'on peut avoir, on a toujours cité un verset. Je ne sais pas si... Vous vous en souvenez, ceux qui sont passés par cet entretien, si vous l'avez noté, c'est Marc 8, 34. Si quelqu'un veut me suivre, c'est Jésus qui parle, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge sa croix et qu'il me suive. C'est des paroles qu'on a l'habitude d'entendre et auxquelles on a l'habitude de répondre. On a des chants qu'on peut chanter à tue-tête. « Jésus, je te suivrai, malgré le prix, je t'aimerai plus que la vie. » C'est facile à chanter, mais comment est-ce qu'on le vit ? Ce verset, il pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire « se renier soi-même » ? Qu'est-ce que ça veut dire se charger de sa croix ? Me renier moi-même. Ça pose la question, je crois, qui suis-je ? Pour me renier, j'ai besoin de savoir qui je suis, comment est-ce que je me définis ? Je suis un homme de 48 ans, mari heureux, un père fier de ses enfants. Je travaillais dans l'informatique où j'ai eu quelques réalisations dont je suis fier. Je suis guitariste, mélomane, cinéphile, chrétien depuis 36 ans, membre de cette église depuis 30. Plutôt quelqu'un de bien en fait. J'ai quelques défauts, mais si on ne les met pas trop en avant, ça va. Je sais ce que je veux, je sais faire des choix. Quand je me souviens, quand j'ai eu 40 ans, je me suis dit, ça y est, j'ai de l'expérience, on ne va plus m'embêter, je sais ce qu'il faut faire. Et je forme des projets basés sur mon jugement personnel. Bien, Jésus m'invite à me renier moi-même. Tout ce que j'ai cité, ce n'est pas important. Ce n'est pas un sujet de fierté. Les projets que je forme, les jugements que je tire de mon expérience, les choix que je fais, il faut être prêt à les abandonner, si Jésus le demande. Ne pas se baser sur moi-même, sur ce que je crois être bon, sur ce que je crois être mes forces, sur ce que je crois être mon identité, mais la recevoir de Dieu, de Jésus. Me renier moi-même. Se renier soi-même et se charger de sa croix. Il y a peut-être un fossé, un écart historique se charger de sa croix. Jésus dit ça à l'époque de l'occupation romaine et les Romains avaient pour rendre la justice le supplice de la croix, où les condamnés aux crimes les pires étaient cloués sur une croix où ils agonisaient pendant des heures. Sympa. Et pour bien leur faire porter l'humiliation de ce qu'ils avaient, avant d'être cloués sur la croix, ils portaient eux-mêmes leur croix jusqu'au lieu où ils allaient exécuter. Ils portaient leur condamnation à venir. Ils savaient qu'ils allaient mourir, ils le portaient sur eux. Et Jésus invite à se charger de sa croix, ce qui signifie montrer qu'on est prêt à sacrifier sa vie, ses projets, ses certitudes, être prêt à mourir à soi-même, s'oublier. Pour suivre Jésus, c'est nécessaire. Nécessaire de nous déconsidérer, de nous oublier. On est loin du discours de notre monde qui vise l'épanouissement, l'accomplissement de soi, la réussite, le bonheur. Pourquoi Jésus dit-il cela? Pourquoi est-ce que Jésus nous prend ainsi à rebrousse-poil, à contre-courant? Je pense qu'il est temps de lire un peu plus largement autour du simple verset que nous avons cité. Je commencerai ma lecture, alors j'ai écrit Marc 3, n'importe quoi, on est bien dans Marc 8. Et je commencerai ma lecture à partir du verset 31. Jésus commença alors à apprendre à ses disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et qu'il se relève 3 jours après. Il disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer. Mais il se retourna, regarda ses disciples et rabroua Pierre. « Va-t'en derrière moi, Satan !» lui dit-il. « Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Puis, il appela la foule avec ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et à quoi sert-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Que donnerait un être humain en échange de sa vie? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Jusqu'ici, notre lecture. Dans cette séquence, Jésus annonce sa mort. Une mort difficile, dans la souffrance. Et ça fait réagir Pierre, nous l'avons lu. Hein ? Pourquoi est-ce qu'il réagit, Pierre ? C'est intéressant, en préparant cette prédication, j'ai comparé les récits dans Matthieu et dans Marc. Et Marc, que nous avons lu, ne met pas l'accent sur la même chose. Dans Marc, ce qui gêne Pierre, c'est que Jésus dise ça ouvertement, devant tout le monde. « Seigneur, tu ne peux pas dire ça, pas devant tout le monde, pas comme ça. Tu vas faire peur aux gens. Ils vont partir. Ce n'est pas attirant de parler comme ça. » Mais Jésus le reprend sèchement. Ma Bible aime bien le verbe rabrouer. Il le reprend, il le fait en invitant tout le monde, hein. Il ne le fait pas juste en privé, il le fait devant les disciples. Et ensuite, il appelle même la foule pour expliquer la nécessité du sacrifice. C'est nécessaire que tout le monde entende que suivre Jésus nécessite un sacrifice. Que tout le monde sache ce que ça coûte de suivre Jésus. Que tout le monde sache que suivre Jésus, ce n'est pas rajouter un bonus à sa vie. Je ne change rien, j'ai des trucs en plus. Suivre Jésus, c'est un sacrifice. Et à la fin, Jésus remet même les pendules à l'heure. Celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Ça, c'est cadeau pour Pierre. Tu as honte de ce que je dis ? Fais attention. Je pourrais avoir honte de toi. On touche là au cœur de la compréhension de Dieu, au cœur de la pensée de Dieu. Dieu ne pense pas comme les hommes. Les hommes pensent qu'ils ont des capacités. Il faut travailler pour s'élever, il faut s'appuyer sur ses forces pour réussir. Et dans le cas de Jésus, de son ministère, là où il essaye de rassembler autour de lui un groupe de disciples, ce serait bien d'avoir un discours un peu rassembleur, un discours qui va plaire. Il faut donner envie. Il faut créer un mouvement, rassembler du monde. Et là, on aura une force de frappe et on pourra envisager de voir plus grand. Mais ce n'est pas comme ça que pense Dieu. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Avec Dieu, on ne s'élève pas soi-même. Dieu est au-dessus de tout. Et l'élévation, c'est de lui qu'elle vient. C'est lui qui nous élève. Elle doit venir de lui. Et il faut accepter sa petitesse. Accepter de nous humilier pour qu'il nous élève. Et à la fin et à la suite du passage, c'est amusant, Jésus qui a un raisonnement qui ressemble au pari de Pascal. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient au Forum Veritas qu'on a eu, je vois Simon. Simon, ouais, il était là, il modérait. C'était lui le big boss qui disait aux philosophes quand est-ce qu'il pouvait parler et quand est-ce qu'il devait se taire. Pascal a écrit le texte de son pari en disant qu'on doit miser sa vie. Il faut le faire. Est-ce qu'on l'a mise sur Dieu ou est-ce qu'on l'a mise sur le fait que Dieu n'existe pas et qu'on vit comme on veut ? Et Jésus, il a un raisonnement un peu pareil hein, quand il dit « Celui qui veut gagner sa vie la perdra. » Mes amis, ce que vous avez, vous allez le perdre. Popularité, richesse, pouvoir, succès. Un jour, vous mourrez, il n'en restera rien. Par contre, si ce que Jésus dit est vrai, si effectivement celui qui met sa confiance en lui a la vie éternelle, celui qui le suit, amasse des trésors dans le ciel, réfléchissez. Si vous perdez, vous ne perdez pas grand-chose, parce que tout ce que vous avez ramassé de toute façon disparaît le jour de votre mort. Mais si vous gagnez, vous avez la vie éternelle. On se méfie de tels discours. Des gens qui mettent des trucs, qui promettent des trucs incroyables et qui le font pour s'enrichir eux-mêmes. Qui demandent aux autres des sacrifices qu'ils ne font pas pour récupérer ce que les naïfs vont leur donner. Mais Jésus sait appliquer à lui-même ces principes. Jésus, il est allé jusqu'à la mort, jusqu'à la souffrance, jusqu'au déshonneur. Quand il dit « si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix », lui, dans quelque temps, il prendra sa croix. Lui, il renonce à lui-même, à son confort, pour la mission que Dieu lui a confiée. Et il aurait pu faire autrement. Le diable lui a proposé un autre chemin. On le voit dans la tentation qu'il a au désert. « Si tu t'inclines devant moi, je te donne tout. Pas besoin de passer par la croix. » Et quand Pierre lui dit « Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas raconter ces histoires de mort et de souffrance. » Pierre, il fait écho à la tentation que le diable a apportée à Jésus. Mais Jésus rejette ce chemin de facilité. Arrière, Satan. C'est la signification du baptême. Le baptême est au cœur du parcours de disciple. C'est un symbole de ce que c'est que devenir un disciple. Par le baptême, on s'identifie au Christ, on met en scène symboliquement notre propre mort. On dit à tous, je renonce à moi-même, je me renie moi-même, avant de ressortir de l'eau pour suivre Jésus, le suivre chargé de sa croix. Le baptême, c'est une décision. C'est la décision de suivre Jésus. Mais comment en arrivons-nous là? Bien, il y a d'abord un temps d'approche. Le temps qu'on réfléchisse, qu'on découvre, qu'on prenne la décision. Parce que Dieu travaille dans le temps. Dieu, ce n'est pas de l'instantané. Il s'est fait homme, il est venu dans ce monde et il travaille dans le temps où nous vivons. Il nous fait évoluer. Et la Bible nous dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Nous nous approchons, nous sommes accueillis, nous sommes invités jusqu'au jour où nous avons pris la décision de renoncer à cette vie et de suivre Jésus. Et après cette décision, eh bien c'est la marche avec Jésus. Nous sommes enseignés, Jésus a dit, prenez ma charge sur vous et mettez-vous à mon école. C'est bien qu'il faut apprendre des choses. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Mettez-vous à mon école, vous trouverez le repos pour vous-même. Se mettre à son école, écouter et mettre en pratique ce qu'il nous dit dans nos vies. Et c'est aussi l'envoi, être envoyé. Hervé a cité ces dernières paroles de Jésus, « Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. » Allez, baptisez-les, enseignez-les, allez. Pas après, mais dès maintenant. Pas quand vous aurez fini votre temps d'enseignement, vous n'aurez jamais fini d'être enseigné et de mieux comprendre ce que Jésus nous a dit. Ce n'est pas une raison. Dès maintenant, vous pouvez aller. Faire par exemple comme Léon et Sylvain. Comment faire? Comment faire pour vivre tout ça? Comment faire pour faire des disciples finalement? Pour cela, eh bien, il y a l'Église. J'aime beaucoup cette citation de Christopher Wright, et je ne suis pas le seul à l'aimer, hein, vous l'avez déjà entendu dans cette Église. Christopher Wright dit « Ce n'est pas tant que Dieu a une mission pour son Église dans le monde, mais plutôt que Dieu a une Église pour sa mission dans le monde. » La mission n'a pas été faite pour l'Église, c'est l'Église qui a été faite pour la mission. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il y a une Église et que Dieu s'est dit « Tiens, qu'est-ce qu'on va lui faire faire ?» Non. Dieu a un plan pour le monde. Pour le réaliser, il y a l'Église. L'Église est ce que Dieu a prévu pour remplir sa mission. L'Église permet de faire des disciples. Et on peut reprendre les cinq mouvements que nous avons vus tout à l'heure. L'Église accueille. Faire en sorte que tous ceux qui s'approchent de Jésus soient accueillis tels qu'ils sont, puissent se sentir bien, qu'ils n'ont pas la pression, mais puissent sentir qu'ils ont trouvé un lieu pour s'approcher de Jésus. Je crois que cette Église a bien compris l'importance de l'accueil, mais il ne faut pas oublier à quoi sert l'accueil. Le but, ce n'est pas que les gens s'attachent à cette Église. Le but, c'est que les gens s'approchent de Dieu. Et l'accueil, c'est l'affaire de tous. Un sourire, un bonjour, aller vers l'autre, lui faire sentir qu'il est le bienvenu. Être présent également, parce que si on n'est pas là, on n'accueille pas. Accueillir. Et peut-être avant cela, inviter. Cette Église est pleine d'occasions où les gens peuvent être invités. On essaye de travailler les cultes pour que ce ne soient pas des réunions d'initiés, de ceux qui ont les codes, le vocabulaire, mais que ce soient des endroits accessibles pour tous. On fait aussi des cultes festifs. Vous vous souvenez de ce qu'il y a pu y avoir avec des chants de la chorale, avec des sketchs, une occasion supplémentaire pour inviter. Mais en réalité, il y a l'embarras du choix. Le groupe de jeunes, la chorale, l'aide aux devoirs, les journées travaux, les après-midi jeux. Autant d'occasions de relayer l'invitation. Viens, viens et vois. Nous avons tous des amis qui n'ont jamais été invités à s'approcher de Jésus. Et pourtant, Jésus change les vies. L'Église est pleine de gens que Dieu a choisi. Appuyez-vous sur eux, sur leur présence. Invitez vos amis pour qu'ils connaissent la bonne nouvelle du salut en Christ. De l'autre côté, il y a l'enseignement. L'Église enseigne à vivre comme Jésus le commande. Nous prêchons la parole, nous avons des programmes d'enseignement comme le parcours jeune chrétien, par exemple. Peut-être que vous dites que tous ne participent pas à ce mouvement d'enseigner. Nous n'avons pas tous les mêmes dons. Certains ont ce don, prêcher, annoncer la parole de Dieu pour aujourd'hui, enseigner, organiser ce que la Bible dit pour transmettre la connaissance nécessaire à la foi. Tous n'ont pas ces dons. Mais nous savons tous les choses. Nous avons tous avancé avec le Seigneur. Nous pouvons tous partager l'expérience de notre marche avec d'autres qui sont à une étape différente, un peu en arrière par rapport à nous, ou même en avant, qui ont besoin de réentendre les pas que nous faisons. Moi, j'ai une question. Combien de fois parlez-vous de ce que vous avez compris, de ce que vous avez appris avec le Seigneur ? Combien de fois en parlez-vous, même dans l'Église ? On passe du temps à discuter, de se demander comment ça va, et la famille, et les projets, parler des résultats sportifs, de la Coupe du Monde de rugby, par exemple. Et c'est bien de parler de toutes ces choses. Mais est-ce qu'on se parle les uns aux autres de ce qu'on apprend sur Dieu ? De comment on progresse ? J'ajouterais qu'avoir une attitude d'apprenant c'est aussi un enseignement. Montrer aux autres que je ne sais pas tout. Faire comme si on ne savait pas tout. Partager le désir d'en savoir plus. Montrer notre écoute. Se diriger vers les enseignants de l'Église quand on a des questions, quand on atteint nos limites. C'est ainsi que tous participent à l'enseignement de l'Église. Pas seulement en prenant la parole, mais aussi dans son attitude. Et puis, il y a le mouvement d'envoyer. Les rassemblements que nous avons ne sont pas la fin de l'Église, la fin dans le sens du but. Le but, ce n'est pas de remplir cette salle quelques heures par semaine, de nous rassembler le plus souvent et le plus longtemps possible. Le but, c'est de nous envoyer. Aller là où Dieu nous appelle. Certains sont appelés à être pasteurs ou à travailler à plein temps dans un ministère, mais en vérité, ils sont peu nombreux. La plupart d'entre nous sommes appelés à être témoins là où nous sommes. Témoins là où nous sommes. Il ne s'agit pas de poser son cartable et avoir toujours un paquet de flyers à distribuer partout où on passe, à la machine à café et partout où on va. Mais nous sommes appelés à être des chrétiens authentiques qui se renient eux-mêmes partout où nous sommes. À ne pas traverser les lieux en restant centré sur moi, mon travail, ma famille, mes courses, mes loisirs, mes amis. Nous sommes invités à nous poser la question: qu'est-ce que je peux apporter aux personnes que je croise aujourd'hui ? Comment puis-je être pour elle quelqu'un qui parle de Jésus, non seulement par mon discours, mais aussi par mon attitude, mon ouverture, mon amour? De quoi ont-elles besoin? Qu'est-ce que Jésus veut pour elles? Et là encore, nous participons tous à ce mouvement envoyé. Nous y participons en encourageant les autres à le faire, en parlant entre nous. Encore une question. Mes frères, mes sœurs dans l'Église, connaissent-ils mes amis? Connaissent-ils vos amis? Est-ce que vous leur en avez déjà parlé? Est-ce qu'ils prient pour vos amis? Le but de l'Église, ce n'est pas de tourner, d'avoir des activités, des services bien pourvus. C'est une belle chose qui montre la générosité des membres. Mais le but de l'Église, c'est de répandre le royaume de Dieu. De faire des disciples. Pas des membres de l'Église évangélique baptiste de Clermont-Ferrand. Même pas des chrétiens qui sont estampillés. Des disciples. Des disciples qui suivent Jésus, ayant renoncé à eux-mêmes. Et le baptême est au centre de cela. Non pas un rite qu'on ferait par habitude, mais ce qu'il représente. Dire et redire: je renonce à moi-même pour suivre Jésus. Nous revenons au point de départ, à notre point de départ. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge sa croix et qu'il me suive. Ce message, mes amis, il n'est pas super vendeur. Qui serait attiré par la perte de soi-même? Mais nous. Nous savons que suivre Jésus, c'est un gain. Qu'il y a une vie abondante à le suivre. Nous savons que la vie éternelle, c'est une promesse fiable. Dieu nous a choisis pour son projet. Il ne nous a pas choisis parce que nous sommes les meilleurs. Désolé de vous le dire, vous n'êtes pas les meilleurs. Il nous a choisis parce que, dans son plan génial, il a choisi des gens ordinaires pour porter son message extraordinaire. Alors suivons-le. Répondons à son appel. Faisons des disciples.